Des hommes de paix dans la Grande Guerre, le père Chibas Lassalle et les bénédictins de Belloc. Voici la seconde et dernière partie de l'intervention du frère Marc Doucet, bénédictin à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urt. Intervention enregistrée dans le cadre des plus de la formation permanente le 27 mai 2016 à Pau. Des hommes de paix dans la Grande Guerre, le père Chibas Lassalle et les bénédictins de Belloc. Voici la seconde et dernière partie de l'intervention du frère Marc Doucet.
Je voudrais dire un mot maintenant sur le père Anselme Chibas Lassalle, à partir de ses carnets, et ce sera mon deuxième volet. Père Chibas Lassalle, 1884-1958. Il était né, donc en 1884, à Batch de Béarn. Son nom de baptême était Jean-Baptiste. Et au monastère, on va l'appeler frère Anselme. Un nom tout à fait monastique, parce que quand il est arrivé, il y avait déjà un frère qui s'appelait Jean-Baptiste. Voilà. Il y avait un frère Jean-Baptiste et un père Jean-Baptiste. Donc on ne pouvait pas un troisième s'appeler Jean-Baptiste. Alors lui va être très rapidement envoyé à la fondation de Jérusalem. Et en Palestine, rapidement, il va être supérieur et il va le rester jusqu'à sa mort. Presque jusqu'à sa mort. Bon. Il est prêtre en mars 1907. Et il est aussi musicien. Je ne l'ai pas connu. Il est mort 2 ou 3 ans avant que je rentre au monastère. Il est musicien, il paraît qu'il avait une très belle voix. Et il était organiste. Et c'est amusant parce que dans ses carnets, partout, il trouvera des églises avec un orgue ou un harmonium, il s'arrangera pour jouer ou pour faire jouer. Et quand il trouve un orgue ou un harmonium démoli, il le note. C'est partie des choses importantes qu'il note. Voilà. Et il a édité un énorme travail fait par les moines de Solesmes et auquel il avait collaboré pour la mise par écrit pour la première fois de la liturgie syriaque catholique par écrit. Et il parle l'arabe de Palestine. Tous les jours, donc, il note ce qui s'est passé d'important dans sa journée. À la mobilisation, il est en convalescence chez lui à Batch. Retour de Jérusalem, quand la guerre éclate. 2 jours, parce qu'il a été hospitalisé à Jérusalem, mais ça n'a rien fait, et on a déclaré que l'air du pays lui ferait du bien. Alors, bon, voilà. Et puis la guerre éclate. Alors, donc, il se trouve chez lui au moment où la guerre éclate. Et le 30 juillet 1914, il note ceci. Nouvelle guerre, on mobilise partout. Pessimiste. Il ne fait pas des dissertations, hein, il a une petite page comme ça, et il note, voilà. 31 juillet, déjeuner chez Monsieur le curé. On lit les journaux. Monsieur le curé, c'est l'abbé Tauzin. Je ne sais pas si vous avez l'abbé Tauzin, oui, qui lui-même va mourir rapidement après la guerre. Il sera prisonnier là-bas. Et il a écrit, édité chez Marin Pouey, 3 ou 4, je ne sais pas, petits livres sur les prisonniers avec lui en Allemagne. Trois petits livres, voilà. C'est très intéressant avec une quantité de détails, bien sûr. Voilà. Il note ceci, Chibas, le moine de Belloc. Très belle journée. On rentre les dernières gerbes de blé. Le 1er août, Orthès, mobilisation. À 4h30, le tocsin sonne à l'église Saint-Pierre. On commence à mobiliser dès minuit. Partout, des larmes et l'inquiétude sur les visages. Batterie de tambour. Je salue l'archiprêtre et le vicaire. Assassinat de Jaurès. Son fils qui va mourir.
31 juillet.
Lui, il a dû l'apprendre le 2 août. Oui. Lui, le note le 1er août. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Oui. Dimanche 2 août, la guerre, point d'interrogation. À la messe, le curé fait ses adieux sans pouvoir. Il va défaillir. Il dit au revoir. Tous pleurent en l'entendant. On chante « Pitié, mon Dieu ». Puis, à la grand-messe, les chantres imbéciles entonnent le Tédéum. Le soir... Pas de catéchisme. Je prends le café chez le curé. On se réconforte l'un l'autre. Je ne vais pas lire tout ça. Je dis le début, c'est la mobilisation chez nous, quoi. Le 3 août, À 5 heures, je dis la messe pour les partants. Ils se confessent tous et communient. Je vais à la gare à 6 heures. Les pauvres ne partent qu'à midi. Chez le curé, on pleure, on s'embrasse. Dîner avec des amis pour chasser le chagrin. J'y reste jusqu'à 6 heures, invasion des Allemands. 4 août 1914, messe du curé, 5 heures, je vais accompagner à la gare pour le départ. Il est morfondu et ne pleure pas. Au moment de la montée en wagon, larmes dans tous les yeux, cri de « Vive la France !» D'autres « À l'abattoir !» Enthousiasme modéré. Chez le curé de Bérinx, soldat lui aussi, point d'interrogation. Le père Chibas, donc ce moine, fut incorporé le 21 août. On peut dire que dans sa période militaire, il y a trois périodes. La première, c'est celle où il est infirmier à Bordeaux. La deuxième, c'est quand il est infirmier dans la Somme. Et la troisième, c'est, il est toujours infirmier, au Chemin des Dames. Au Chemin des Dames, ce n'est pas toujours au même endroit. Et on va voir qu'il crapaille pas mal. Première période, infirmier à Bordeaux. Alors, elle va de la mobilisation, quelques jours après sa mobilisation à la caserne Bernadotte, ici, il a dû être mobilisé avant le 21, peu importe, jusqu'à juin 1916. Il est infirmier à la caserne Nansouty à Bordeaux. Alors c'est la vie de caserne, ça, on lit ses carnets, il y a des trucs drôles, mais enfin bon, ça évoque plutôt l'armée, c'est pas tellement marrant à vrai dire. Le 6 juin, il note ceci dans ses carnets. Je suis de garde chez les sous-officiers, à 11 heures, arrivée inattendue du cher père Grégoire, venant directement du front. Il a passé 12 jours inoubliables à Verdun. Il était avec le 49e entre Douaumont et Vaux, au nord de Verdun, au fameux bois de la Caillette. Bombardement inouï. Enfin, le bon Dieu l'a sauvé de la mort qu'il a frôlée plus de 100 fois, et il est remis de ses fatigues extraordinaires. Nous nous reverrons dimanche soir chez sa sœur, rue Croix de Seguet. Elle était bonne d'un prêtre de Bordeaux, un curé. Il va au Pays Basque prendre son premier congé de 6 jours. J'ai très bien connu le père Grégoire. Il lui a servi la messe pendant je ne sais pas combien de temps. Fin de citation. Certainement, le père Chibas et le père Grégoire ont parlé entre eux. Que se sont-ils dit? Il n'en dit rien. Ce qui est certain, c'est que le surlendemain de ce passage, le 8, Chibas pose une demande pour monter au front. Le commandement transmet et ajoute ces lignes. Je lis. Je déclare transmettre la présente demande avec avis favorable. L'infirmier Chibas a, durant son séjour dans ma formation, donné l'exemple du dévouement, de la bonne conduite. Il connaît à fond la langue arabe et peut rendre de grands services à l'avant. Le père Chibas ajoute dans ses notes ceci. L'officier m'a dit « Je n'écris que ce que j'ai toujours pensé. » Il m'a serré la main 2 fois. Voilà, la demande est acceptée et il va partir pour le front. Deuxième période, donc. Elle va du 13 juin 1916 à septembre 1917. Chibas est infirmier dans la Somme. Rien que le voyage mériterait le récit. Le voyage en train. Tout petit échantillon. Mardi 13 juin 1916, départ de Bordeaux aux armées à Mussonville, 6 heures du soir. Je crois que Mussonville, c'est un quartier de Bordeaux, ou près de Bordeaux, je crois. On mange, puis sac au dos, on se rend en rang jusqu'à la gare où l'on s'enfile dans le train. 6 heures. Un vrai train de marchandises. Il fait nuit quand nous arrivons à Angoulême, où le train stationne longtemps. La nuit se passe à rouler lentement. On est entassé dans un compartiment. Les jeunes de la classe 16, les Martiniquais, ne font que hurler. On mange du singe pour se distraire. Je n'ai certes pas grand appétit. Je suis plutôt inquiet en songeant à cet inconnu mystérieux où nous emporte cette lente machine. Je me jette dans les mains de la divine Providence qui sait mieux que moi ce qui m'est nécessaire et à qui je me promets de la prendre plus que jamais désormais comme le seul guide de ma vie. Le lendemain, 14 juin, au matin, nous roulons toujours, mais si lentement. Arrêt à Blois, à Tours, à Orléans, surtout d'où j'expédie plusieurs cartes à ceux qui, à cette heure, ne se doutent pas que je m'en vais au front. À Angoulême, un nom que j'arrive pas à lire, s'adresse en termes injurieux à un lieutenant de gare qui promet de nous donner de ses nouvelles. Et l'on roule toujours avec la même lenteur et les mêmes chaos. Mes camarades dévorent avec avidité, une par une, les boîtes de conserve et les boules distribuées au Becquet, l'hôpital de Bordeaux. Je mange aussi, mais très peu, sans aucun appétit. Puis on se couche de quelque façon, renversé sur l'épaule du voisin, dans les attitudes les plus étranges et les plus incommodes. Moi, je tire le petit chapelet de Lily, c'est une de ses sœurs, et je récite avec grande foi ces prières simples et naïves qui me paraissent avoir un charme tout nouveau dans ce compartiment de poilus qui file au front. Je prie pour la France. Voilà, alors il arrive, alors je passe, il y a des choses intéressantes, par exemple l'officier qui a appris va leur faire faire une marche de punitive, arrivé à la station je ne sais pas laquelle, alors sac au dos, crapahuté des kilomètres, voilà, il raconte tout ça, bon. Alors à l'arrivée, c'est la bataille de la Somme qui va être le 1er juillet jusqu'à la mi-novembre 1916, l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre. Est l'une des plus meurtrières de l'histoire, avec approximativement 1 062 000 victimes. Ce qui le frappe d'abord, c'est, je vais évoquer quelques points qui, entre autres, qui le frappent. D'abord, la boue. Il pleut à peu près toute la journée. La boue change en cloaque les abords des baraquements où l'on patauge dans 20 cm de boue. Je le cite. Vendredi 21 juillet 1916. À 8h30, tous les hommes de la formation sont réunis et on les distribue dans les différents services par deux équipes A et B qui devront se succéder de 6h en 6h, de nuit comme de jour, en vue d'un mouvement intensif. La bataille se prépare. Le même jour, il entend les pièces colossales de 405 qui tirent. Et il dit « Tout vibre à chaque coup dans nos baraques ». Le 24 juillet 1916, 3h du soir, les brancardiers nous amènent un artilleur blessé accidentellement d'une balle qui lui a traversé le ventre pendant qu'un camarade lui nettoyait un revolver chargé. Je vais le voir après la soupe, en capote. L'infirmier, un protestant, me laisse libre. Nous tâtons le pouls, très faible. Il est dans le coma quelques instants après, arrivée du major qui lui parle, le blessé lui parle. Alors, sur l'indication du major, je m'apprête à lui donner l'extrême onction. Je l'aborde, on cause, je lui dis, le bon Dieu ne vous abandonnera pas. Réponse, il n'y en a pas. Cette réponse me cloue. Voilà. Expérience pour lui qui est prêtre, qui a toujours vécu dans un milieu chrétien. Il découvre des types qui, sur le moment de mourir, voilà. C'est plein de notations comme ça. C'est ça qui est intéressant. Bon. Parce qu'il est infirmier. Alors, comme infirmier, il le dit. Il n'est pas du tout fait pour les médicaments, les types qui tombent, qui sont blessés, tout ça. Mais il fait le scribouillard des infirmiers. Il note les types, les noms, comme il peut. Enfin, je ne sais pas ce qu'il fait. Il fait la secrétaire. Et puis surtout, il va faire interprète. Interprète des soldats arabes blessés. Et pour lui, ça va être une autre découverte. Par exemple, mardi 1er août 1916, une trentaine de gendarmes sont arrivés précédant les officiers de l'état-major de la division marocaine, qui jusqu'ici était à Resson. À Resson va venir le grand état-major de la 10e armée. De ce fait, tous nos majors et dames infirmières qui logeaient en ville sont obligés de déguerpir de leur chambre. Ils sont obligés de coucher ici, dans nos baraquements. Cela les ennuie considérablement. Je le comprends. Mais il y a du bon. Cela leur rappellera qu'ils sont en guerre. Combien qui désireraient que la guerre dure ? Voilà les aspects humains de la vie. Une autre découverte aussi, le cafard. Pauvre et triste chose que la carcasse de l'homme. Que la machine se détraque tant soit peu, et il est facile de constater que ce corps est fait tout simplement d'un peu de boue, etc. Bon, je ne lis pas, mais enfin, il développe, il n'y a pas le moral, quoi. Il y a le cafard. Autre surprise, Spontanément, il est contre les instituteurs qui sont anticurés, évidemment. Samedi 12 août 1916. Dans la nuit, à 1h15, je suis bruyamment réveillé par M. Mété. Je cours à la salle 4, où je trouve un malade très affaibli par une récente crise. Je lui administre l'extrême onction et fais baiser le crucifix et lui suggère de pieuses pensées, des invocations. L'infirmière est présente, ainsi qu'un infirmier qui me tient la lampe. Cet infirmier est, souligné, instituteur laïque du côté de Perpignan. Et c'est lui qui est venu avertir le prêtre. Ceci est un trait bon à noter. Tous ne sont donc pas sectaires. Et ceci est à l'honneur de cet homme consciencieux qui, par son initiative, a procuré les secours de la religion à un militaire sur le point de mourir. Voilà, il découvre que voilà, le monde est complexe. Bon. Autre chose. Dimanche 20 août, un autre aspect, 1916. Étant de l'équipe B, je reste tout le soir. À 2h30, je suis demandé par l'aumônier de Dompierre, M. Perrier, de Paris. Il s'informe auprès de moi, c'est le remplaçant de passe, du fonctionnement, il s'informe auprès du fonctionnement du service religieux auprès des malades. Je lui explique l'organisation, il est enchanté. Il s'informe qui je suis et me dit que mon confrère, Don Villemar, un moine de Ligugé, un savant, est très apprécié de ses chefs là-bas. Et il me dit, ne donnez l'absolution et l'extrême onction qu'aux blessés conscients qui acceptent. Histoire malheureuse d'une famille qui demandait des détails sur dernier moment du fils, reçoit une lettre de l'aumônier disant qu'il a reçu les derniers sacrements. Fureur de la famille, qui écrit au ministre pour dénoncer ce cas d'atteinte portée à la liberté de conscience. Voilà. Puis, au milieu de tout ça, il y a les blessés aussi. Mars 5 septembre 1916. Le matin, je travaille au bureau des entrées. Grosse besogne, énorme, avec les blessés qui affluent venant des combats de Soyecourt. Et ils sont couverts de boue, de sang, affreusement mutilés. Les membres pantelants, les habits déchirés brutalement pour faire les pansements. Quel va-et-vient continuel, au milieu des blessés ahuris et encore hébétés par la lutte, la crainte de l'opération et la joie de filer bientôt sur l'intérieur, et les cris des majors et infirmiers s'interpellant avec quelque chose de fébrile. Blessés entrés, 1700. 14 février 1917, un spectacle, voilà. C'est dans une église. L'église de Villers, que j'ai vue si belle, a toutes ses verrières en miettes, dispersées, sur les dalles et les bancs. La bombe d'avion Bosch de dimanche, qui a éclaté à 12 mètres de là, brisant tout. Le pauvre vieux curé est dans le sanctuaire, au milieu de ses ruines. Deux sous-lieutenants du 144e, que je crois prêtre, viennent s'apitoyer auprès de lui et s'informer. Petite scène. Voilà. Alors il décrit des tas de 1000 aspects de la vie. Je passe. J'en cite quand même un dernier. Dimanche 4 février 1917. Le froid est tellement fort que le courage me manque pour célébrer. Je crains que le précieux sang ne gèle dans le calice au point de compromettre la validité du sacrifice. Température, moins 18. Grosse nouvelle. Suppression de la loi de 1889. L'amendement Sixte Quenin a été voté à main levée, à une forte majorité, mais en réalité escamoté. Cet animal de Malvy, le décret Malvy, du début, y a été de sa manœuvre d'anticléricalisme au point d'obliger Lyautey à quitter la Chambre. Je ne sais pas comment il a su ça là-bas, mais enfin, voilà. Alors, c'était perçu évidemment comme une manœuvre, comme quelque chose d'anticlérical. La loi de 1889, c'est ce qu'on appelait la loi curé-sacrodo. Bon, tous les curés et truffions comme tout le monde, mais plutôt, ils ne porteront pas les armes. S'ils ne veulent pas, ils ne porteront pas les armes. Quand même, quand on est séminariste ou prêtre, c'est appréciable. Ils ne porteront pas les armes s'ils ne veulent pas, ils seront infirmiers. Voilà. Cet amendement portait la modification suivante. La loi. Bon, je passe, oui. Bon. Il faut aller vite. Autre chose, puisqu'on parle de ce climat, je voudrais dire un peu, quelques mots sur la rumeur infâme. C'est parce que cette loi, cette manœuvre de Malvy, oui, amendement 6-9, avait réveillé la fameuse rumeur infâme. C'est tout ce qui se colportait d'injustement offensant sur les prêtres, les séminaristes, les religieux, tous dans le même sac, c'est-à-dire que les types ne font pas la différence entre bénédictins, apprentis curés, tout ce que vous voulez, tout ça c'est pareil. Bon, les curés. Par exemple, le milliard des congrégations. Autre chose, ce sont les curés qui ont fait déclarer la guerre et qui la font durer. C'est la faute aux curés, ils font durer la guerre en envoyant de l'or aux Allemands. Le journal La Croix, du 25 novembre 1914, se fait l'écho de la rumeur suivante. Je cite La Croix, 25 novembre 1914. La guerre fut décidée, il rapporte une rumeur, la guerre fut décidée au congrès eucharistique à Lourdes. L'empereur allemand assista au congrès déguisé en curé, avec l'évêque de Tarbes, pour que le trésor de la basilique de Lourdes lui fût livré. Et c'est avec cet argent que l'Allemagne mène la guerre contre la France. Autre rumeur. Le clergé mobilisé n'accomplissait pas complètement son devoir et les curés sont des embusqués, des planqués. Charles Bourg, journaliste, écrit un article intitulé « Les curés embusqués » dans le journal « Le Bonnet Rouge » du 23 décembre 1915. Je cite. On connaît le nombre exact des curés embusqués qui, au lieu de servir sur le front, sont retenus, sont retenus à l'arrière, soit dans les formations sanitaires, soit dans les ambulances ou les hôpitaux de la métropole, au titre de brancardiers et d'infirmiers. Ils sont 12 580, soit à quelques unités près, l'effectif d'une division. Voici donc 12 580 jeunes hommes, intelligents et tous célibataires, qui feraient d'excellents combattants et qui sont éloignés de la ligne de feu où ils sont remplacés par des territoriaux beaucoup plus âgés et pour la plupart pères de famille. Fin de citation. Les prêtres et les religieux étaient encore accusés de zèle clérical auprès des blessés. En plus de tout ça, ils faisaient du zèle clérical voilà, à l'arrière. L'affaire va passer au tribunal qui condamna le Bonnet Rouge et Charlebourg le 9 juillet 1916, avec cette conclusion que les prêtres ont versé leur sang comme les autres. Troisième période de Chibas, de septembre 1917 jusqu'à la fin de la guerre, pratiquement jusqu'à la fin de la guerre, enfin jusqu'à la démobilisation. Je prendrai uniquement deux faits, simplement. D'abord, l'attaque du fort de la Malmaison. Au chemin des Dames, c'est plutôt à l'ouest. C'est pas plutôt, c'est à l'ouest, oui. Plutôt à l'ouest, du chemin des Dames. Au printemps 1917, d'avril à mai, du 16 au 25 avril 1917, avait été marqué par l'offensive Nivelle sur ce chemin des Dames, qui s'était soldé par une boucherie qui ébranla le moral des armées françaises et qui fut à l'origine d'une grave crise de confiance. Nivelle fut limogé et remplacé par Pétain. Pétain chercha à redresser la situation. Pour ce faire, il présenta des objectifs limités, précis, des offensives soigneusement ciblées et préparées pour remporter la victoire à coup sûr et faire remonter le moral des troupes. La bataille pour la reprise du fort de la Malmaison est un exemple de cette volonté. Le père Chibas nous raconte dans son carnet comment il l'a vécu. D'abord, on se prépare à l'attaque et chaque jour, celle-ci est reportée au lendemain. C'est intéressant de voir, chaque jour on est prêt et puis c'est demain. Et puis, bon, finalement, ça arrive le 23 octobre 1917. Je cite, « C'est le grand jour. Toute la nuit, nos pièces sont données, feu roulant, mais feu d'enfer. » Mes oreilles tintent à avoir les tympans crevés. Vers 4 heures, ils augmentent même d'intensité. À 5h15, un quart d'heure avant le déclenchement de l'attaque Boche, dont nous étions prévenus, tous nos soldats s'élancent par les parallèles de départ. En un quart d'heure, zouaves et marocains s'emparent du fort de la Malmaison, complètement écrasés par nos obus. Pendant ce temps, les chasseurs bondissent à droite et s'emparent de Chavignon. Dans un élan irrésistible, seul le 27e bataillon a du mal à Filin, du côté d'Ostel, où l'ennemi est massé. À midi, nous savons qu'il y a 7000 prisonniers et que les Boches sont impuissants à réagir. Toutes leurs contre-attaques sont brisées. Le temps n'était pas bien mauvais au moment de l'attaque. Pas trop de brouillard et nous avions pu sortir. Une heure après, la pluie tombe, hélas, et trempe tout. Le boyau d'évacuation devient affreux. Nous le suivons cependant pour porter les blessés, tout le terrain se trouvant bombardé. Un camarade, Fontaine, est tué à son brancard, près de Roland, depuis un nom illisible, je sais pas, qui reviennent commotionnés. Travail affreux. Trois intoxiqués dans notre GBD. GBD, c'est-à-dire groupement de brancardiers, de divisionnaires. Notre dernier voyage de nuit est affreux. La boue jusqu'aux genoux, impossible d'en sortir. Nous mettons près de 2 heures pour le retour. De ma vie, je n'oublierai cet affreux cauchemar. Je suis vivant. Merci Jésus, merci Marie. Voilà, on a plusieurs... Je passe à ce qui va être le début de la fin de la guerre. À un autre épisode, la retraite de l'Aisne. Alors, je passe directement au 27 mai 1918. Entre-temps, il a été malade, les troupes ont été malades, beaucoup ont été malades, etc. Bon, les troupes, chez les Allemands, c'est pareil, les types n'en peuvent plus. Ils tombent comme des mouches, ils sont malades, s'ils ne sont pas blessés, ils sont malades, voilà. Il est à Vailly-sur-Aisne, un peu au-dessous de du chemin des Dames. Il écrit ceci. 27 mai. À 1h30 du matin, un déluge de feu avec 3 nappes de gaz qui écrasent le secteur de Vailly. Effroyable. C'est l'enfer. Nos lignes sont toutes crevées. Les Boches viennent de partout, inondant tout. À 9h, tout le groupement de brancardiers passe à l'Aisne sous les obus. Ils nous accompagnent jusqu'à Chassemy et au-delà. Arrêt à Courcelles, où nous rejoignent quelques retardataires et les brancardiers des postes froidement. Camps qui ont pu échapper aux Boches. L'ordre arrive de partir en ligne, puis contre-ordre. Peu après, on repart en colonne. On essaye de se reposer quelques heures dans les baraquements en bordure de route, mais un groupe d'artillerie lourde vient nous déloger, s'installer et faire feu de toutes ses bouches. Nuit blanche, j'étais de garde. Alors, les Allemands vont enfoncer cette... et ça va être... c'est le 27 mai, mai, juin, pratiquement ça va durer un mois. Un mois, de jour en jour, il faut reculer, la reculade, presque jusqu'à la Marne. Et puis, reprise, ce sera la deuxième bataille de la Marne. Alors, je passe... Alors, il raconte chaque jour toutes les étapes. On peut reconstituer, et non seulement on peut, mais ça a été fait grâce... à M. Tosia et... Ah, eh bien, je suis heureux de le remercier. Je suis heureux de vous dire merci parce qu'il a fait la carte avec tout l'itinéraire de la retraite et puis la reconquête ensuite. Voilà. Quand l'avance allemande sera stoppée, ce sera la deuxième bataille de la Marne. Les troupes françaises reconquièrent le terrain perdu et vont remonter vers l'Aisne et au-delà, vers le nord. Et alors, ça continue comme cela, l'armistice, le 11 novembre, va trouver son unité, le Perchibas, à Charleville-Mézières, tout à fait dans le nord, c'est presque la frontière belge. Je le lis. Lundi 11 novembre 1918, armistice, à Neuvisy, Ardennes, armistice. Grande et triomphante journée. À 7h, nous apprenons par TSF que l'armistice a été signé aujourd'hui. À 11h, cessation des hostilités. Le canon hurle toujours et à 11h, tapant, silence partout. À 1h, la musique du 64e joue la Marseillaise devant la porte de l'église. Joie délirante chez tous. Les équipes du 93e rentrent. Elles étaient hier dans Mézières, que les Boches ont bombardé d'une façon barbare après avoir parqué la population dans un coin plus particulièrement visé par eux. Corvée de nettoyage dans la cour boueuse. notre division d'infanterie est relevée ce soir. Le bruit court que nous allons partir dans les Vosges ou l'Alsace-Lorraine, Te Deum Laudamus. Seigneur, nous te louons. Voilà, c'était mon deuxième volet. Je voudrais évoquer, dans un troisième volet, très rapide, enfin plus rapide, le père Benoît Gariador. Il était entré au monastère en 1875. Il était très ancien, bien au-delà, il n'était plus du tout mobilisable. Il était originaire des Aldudes. Quand il est entré au monastère, c'était une famille de bergers, de paysans bergers, dans la montagne. Quand il est rentré au monastère, au bout de 2 jours, il n'en pouvait plus. Il a été trouvé un oncle qui était un des fondateurs de Belloc. Et un oncle à lui, il lui a dit, bon, finalement, c'est pas ma vocation ici. C'est pas... Et l'autre lui a dit, non, tu peux pas décider comme ça. Attends un peu. Non, ne pars pas comme ça, non. Bon, et c'est... Bon, 2 jours après, il vient le père Benoît Gariador, futur, va le trouver, son oncle. Non, vraiment, je suis vraiment pas fait pour cette vie, c'est mortel, j'en veux plus. Je pars. Non, surtout, fais pas cette bêtise, pars pas comme ça. Voilà, bon. Et puis, bon, finalement, il part pas. Il reste. Bon. Et puis, une troisième fois. Et puis, finalement, il est devenu abbé général de la congrégation. Et c'était vraiment un homme éminent. Bref, après la guerre, le 28 novembre 1918, signature de l'armistice le 11 novembre, et le 28 novembre, il écrit au ministre de la Marine, Georges Laigue. Monsieur, non, 20 rue Monsieur, Paris, le 28 novembre 1918. Monsieur Georges Laigue, ministre de la Marine. Monsieur le ministre. Donnant suite à la promesse que je vous ai faite lundi dans l'entretien que vous avez bien voulu m'accorder, je vous adresse sous ce pli une note dans laquelle j'ai résumé les desiderata que j'ai eu l'honneur de vous exposer de vive voix relativement à la Palestine et à la Syrie. C'était un moine, il était supérieur et de la fondation en Palestine. Le père Jalabert, jésuite, qui a publié dans les études des pères jésuites un article sur la Syrie sous la signature de Charles Albert, m'a dit qu'il vous a adressé un exemplaire des études contenant cet article. Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous présenter à cette occasion un exemplaire d'un petit travail historique que j'ai fait paraître sur les monastères bénédictins en Orient. Lorsque vous aurez quelques loisirs qui vous permettra de jeter un coup d'œil sur cette brochure, vous y trouverez des renseignements qui pourront vous intéresser sur l'histoire des bénédictins en Orient qui représentaient l'influence française dans le passé. Je n'ai pas besoin de vous prier, monsieur le ministre, de faire tout ce qui dépendra de vous pour que les intérêts de la France en Syrie et en Palestine soient sauvegardés. Agréez, monsieur le ministre, l'hommage de ma plus haute estime. Père Benoît Gariador. Je n'ai pas besoin de vous prier, monsieur le ministre, de faire tout ce qui dépendra de vous pour que les intérêts de la France en Syrie et en Palestine soient sauvegardés. On a l'impression que c'est plutôt le Quai d'Orsay qui écrit au ministre qu'un bénédictin de base de Belloc. Alors, il faut comprendre ceci. Le 11 décembre 1917, pendant la guerre, le général Allenby, ou Allenby, je ne sais pas comment il faut dire, anglais, entre à Jérusalem. C'est un tournant dans la guerre, bien entendu. Un peu avant le 9, Jérusalem a capitulé. Le 12 janvier, rapidement après, le père Chibas, qui a beaucoup de correspondances avec tout le monde, note ceci. Samedi 12 janvier 1918. Journée calme. Un seul voyage d'évacuation dans l'après-midi. Bonne nouvelle. Don Théophane, moi dont je n'ai pas parlé du tout, évidemment. Il est infirmier, lui aussi. M'annonce dans sa lettre de ce soir qu'il se trouve à Marseille, affecté au 115e territorial en instance de départ pour le front de Palestine. Deo gratias. Et que Dieu soit avec lui. Je n'ai pu trouver nulle part, et personne n'a pu me renseigner, sur ce fameux régiment territorial, le 115e, partant pour la Palestine. Peu importe. Mais ce qui est intéressant de noter, en quel honneur ce moine, ce religieux, est-il envoyé pour, en Palestine Oui, bref. J'ai envoyé d'ensemble... À l'entrée des Anglais à Jérusalem, se posait un problème nouveau aux autorités civiles françaises. Non plus un problème militaire, mais diplomatique. Et ce problème diplomatique, c'était l'influence française et anglaise en concurrence bien entendu, en Palestine, en Syrie et pratiquement dans tout le Moyen-Orient et même au-delà, sur toutes les colonies ex-allemandes. Qu'est-ce qu'elles allaient devenir? À qui allait-on les attribuer? C'est le problème des mandats. Il relève la société des nations. Ce problème avait un aspect religieux, les missions catholiques en Orient. Et les moines de Belloc et les autres moines qui étaient à Jérusalem étaient évidemment concernés. Il fallait absolument que ce soit la France qui maintienne tout ce qui avait été fait par les missions françaises. Il n'y a pas uniquement les bénédictins. Tout ce qui était congrégation religieuse là-bas, Jérusalem ou autre, se battait pour que ce travail ne soit pas abandonné, de quelque manière. Et on a complètement oublié tout cela, évidemment, mais il faut se souvenir qu'un peu avant, dans la lettre du père Benoît Garciador, le 23 décembre 1917, un an avant quand même, Monseigneur Baudrillard, le recteur de l'Institut catholique de Paris, alors à l'époque, lors de la prise de Jérusalem par les Anglais, avait fait un grand sermon à Paris sur le sujet à l'église Saint-Julien-le-Pauvre. Le sermon avait été publié par une revue de théologie. Et lui aussi se plaçait, non pas au point de vue diplomatique, bien entendu, mais au point de vue des conséquences des tractations diplomatiques sur les missions. C'est ça qui était en jeu. Et c'est cet aspect-là qui va être le souci numéro un après l'armistice, spécialement des missionnaires et des responsables d'église. Baudrillard va s'entretenir avec le père de Belloc, le Garriador, dont j'ai évoqué la lettre. Et Baudrillard écrit ceci. Je ne sais pas marqué quel jour c'était. « Don Garriador, prieur des bénédictins de Jérusalem, vient m'entretenir de la question de la Palestine. Il tient pour la domination française. Et le gouvernement le sollicite de retourner au plus tôt à Jérusalem et d'y reprendre ses œuvres. » Voilà comment on peut expliquer qu'un père est expédié avec le 115e régiment, et que lui-même s'occupe de ça. Ce qu'il s'agissait, c'était tous les religieux avaient ce souci, le problème des mandats, qu'est-ce qui sera attribué aux Anglais, qu'est-ce qui sera attribué aux Français. C'est la politique, mais il y a les conséquences de la politique, il faut sauver les missions. Voilà, c'est comme ça que c'est intervenu. C'est la présence française qui est en jeu, donc le gouvernement retire le père Théophane du front et l'envoie à Jérusalem, reprendre à main la fondation. Mais le gouvernement anglais veut... Peu importe, passons. Voilà, et je termine maintenant ma petite présentation. Je conclue avec une carte postale que j'ai oubliée. Je regrette beaucoup. C'est une carte postale qui a été envoyée par le père Maurice Gisler. C'est un moine de Beuron en français, un monastère allemand sur le Rhin. Il était prêtre depuis 1895. Il a été envoyé au monastère de la Dormition, qui est un monastère bénédictin à Jérusalem, comme nous avions le monastère bénédictin à Jérusalem. Nous, on y était pour la gloire de Dieu et la présence française, et lui, il y était pour la gloire de Dieu et la présence allemande. Il est bénédictin, comme les moines de Belloc, mais allemand, il était allemand, bien entendu. Et c'est un artiste. Et les moines de Belloc lui ont demandé de décorer l'église d'Abou Gauche, toujours vivante, qui est tenue là maintenant par les Olivetins, vous serez très bien reçu, il paraît, je n'y ai jamais été, si on y va, très bien reçu, près de Jérusalem, qui a été restaurée avec l'aide du gouvernement français. Le peintre, c'était lui, cet Allemand. Bref, pour un moment, ce n'est pas encore la guerre. Le père Guise, à la fin de la guerre, les bénédictins allemands, évidemment, lui aussi a combattu, et finalement, il se retrouve prisonnier dans un camp de Sidi Birch, en Égypte. Et sur cette carte, on voit, et c'est de là qu'il écrit aux moines de Belloc qui reviennent en Palestine. Et donc, quand les moines reviennent en Palestine, il leur envoie, lui prisonnier, l'Allemand prisonnier, au moins le français, c'est le tampon, c'est Allianz International Camp, Sidi Birch, Alexandrie, Égypte. Adresse, il l'adresse, Bénédictin de Mont des Oliviers, Jérusalem, etc., de la part du père Maurice Gisler, Bénédictin numéro 1387. Et au-dessus, il écrit ceci, très révérend père et cher père. De tout mon cœur, je vous félicite de votre heureux retour en Terre Sainte en remerciant Dieu de la bonne protection qui vous a sauvé au milieu des dangers. Priez pour votre pauvre père Maurice, prisonnier maintenant. Voilà. Et l'image porte avec l'illustration, il a écrit ceci, en souvenir du séjour en terre étrangère et en terre d'amertume, cher pourtant aux chrétiens, illustre par les vestiges de tant de saints de l'Ancien Testament déjà, en une terre autrefois bénite, consacrée par le séjour de la Sainte Face, de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, comme par la couronne d'innombrables martyrs et saints anachorètes au camp de Sidi Birch, près de la ville d'Alexandrie. Voilà, les prisonniers, c'est bien triste, mais il est dans la suite de tous les saints de l'Ancien Testament, de Jésus, etc. etc. Voilà. Voilà. Eh bien, c'est cette carte de vœux d'amitié fraternelle sur laquelle je veux terminer, qui souhaite la paix et la prière pour tous, et qui clôt, je veux clore par là cette histoire, cette présentation de cette épopée, c'est un grand mot, mais enfin cette grande aventure des moines de Belloc à la guerre de 14-18. Merci de votre attention.
Des hommes de paix dans la Grande Guerre, le père Chibas Lassalle et les bénédictins de Belloc. Vous venez de suivre la seconde et dernière partie de la conférence du frère Marc Doucet, bénédictin à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte. Intervention enregistrée le 27 mai 2016 à Pau dans le cadre des plus de la formation permanente. Notez que l'ouvrage du père Marc Doucet, Des hommes de paix dans la Grande Guerre, le père Chibas Lassalle et les bénédictins de Belloc, a été publié par la Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn.